Bienvenue, c'est cool que tu sois là. Ça...
Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je vous prie de prendre place. On va commencer ce culte. Il y a des gens très attentifs devant moi que je reconnais. On s'est vu il n'y a pas si longtemps, hein. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà, prenez place. Alors, je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si les enfants le savent. Les miens, oui, parce qu'on en a discuté en chemin. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire ce matin, les enfants? Ça a l'air. Quelqu'un, allez-y, criez-le. Vas-y. Des paquets de Noël. C'est pas un peu tôt pour faire des paquets de Noël? C'est pour qui ces paquets de Noël? Il a... Pour les gens de l'Est, ouais. Les familles, les enfants des pays de l'Est. Des gens qui, ben, contrairement à nous, hein, ont rarement des cadeaux à Noël. Hein, nous, c'est un petit peu des traditions qu'on a depuis longtemps. On se réjouit d'ailleurs, hein, souvent c'est le truc qui nous fait, voilà, qui nous donne beaucoup de joie à l'avance quand on pense à Noël. Mais pour beaucoup de gens dans le monde, ben, Noël, voilà, c'est peut-être un moment de réjouissance, mais il n'y a pas forcément des cadeaux, il n'y a pas forcément un bon repas. Donc voilà, c'est pas partout qu'on a la même chance que chez nous. Donc, on veut préparer des cadeaux aussi pour donner l'occasion à ses enfants d'en recevoir un. Et puis, quand je me préparais pour ce culte, je me suis dit, OK, de quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler pour commencer? Et j'ai pensé au thème de la générosité. Est-ce que quelqu'un arrive à me dire qu'est-ce que c'est la générosité? Par ici devant, ou peut-être derrière aussi. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Sûrement, là, derrière. Ah, on ne s'est pas expliqué, hein? Ouais, c'est pour ça que je pose la question. Ce n'est pas forcément un mot facile à expliquer. En plus, il peut y avoir différentes facettes. Bon, ce que vous allez faire ce matin, c'est de la générosité. Tu veux essayer de dire quelque chose? C'est un peu comme du partage. Ouais, très bien. Ouais. C'est vrai, hein, on partage quand on est généreux. Il y a différentes manières de le faire. Est-ce que vous avez des idées? Comment est-ce qu'on peut partager? Comment est-ce qu'on peut être généreux? Les adultes ont aussi le droit de répondre, hein. Ouais, Raphaël. Peut donner des choses sans rien recevoir. Hein, c'est intéressant, hein, sans rien recevoir. Ce n'est pas forcément une obligation. On peut aussi recevoir des choses en retour, mais c'est vrai que voilà, donner sans rien attendre en retour, c'est important. Tu parles même de ce que je veux dire après, c'est bien. Comment est-ce qu'on peut encore être généreux? Là, on a parlé de donner des choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut donner? Oui, Séverine, avec son temps, exactement. Hein, c'est vrai qu'en donnant notre temps, on peut aussi être généreux. On peut choisir de garder notre temps juste pour nous, hein, pour faire des activités qu'on aime, aller au cinéma, passer du temps avec nos copains, ou bien on peut donner du temps pour aider quelqu'un. Là, on ne pense plus à nous, on pense à quelqu'un d'autre. Okay, donc c'est une manière d'être généreux. Encore une autre idée? Peut-être une dernière? Ouh là là, mince, à chaque fois, il parle en même temps et à chaque fois, j'entends pas. Attends, je m'approche. Qu'est-ce que tu dis? En accueillant. C'est aussi ce que tu avais dit, ouais. Avec le talent, exactement. Alors, deux très bonnes idées. Donc, en accueillant chez nous, hein, l'hospitalité, en accueillant des gens, et puis, j'ai déjà oublié ce que tu viens de dire, les talents, voilà. En mettant à disposition nos talents, et on va en parler tout à l'heure aussi. Hein, j'ai peut-être un talent, quelque chose que Dieu m'a donné, et puis, ben, je le mets à disposition des autres, je l'utilise aussi pour les autres, et pas que pour moi. Voilà, super, vous avez très bien répondu. Il n'y a pas longtemps, enfin voilà, en réfléchissant à ça, à la générosité, ça m'a fait penser à cette phrase qu'on trouve dans la Bible, mais qu'on utilise partout. Vous l'avez certainement déjà entendu, les enfants aussi. C'est il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Vous avez déjà entendu cette phrase ou bien, ou pas encore? Ouais. Et puis je me disais, alors voilà, je connais bien cette phrase, hein, je l'ai entendue plein de fois. Je me disais, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Si vous dites, en fait, j'ai plus de plaisir à donner qu'à recevoir. On peut être honnête, hein, on peut dire, ah non, pas du tout alors. Je sais pas, hein, ce que vous en pensez. Moyen, je sais pas, ouais. Ouais, donc recevoir, c'est cool, mais ça fait aussi plaisir de donner à quelqu'un, de voir le plaisir que la personne ressent. C'est juste, hein, mais là, tu es presque à égalité. Hein. Tu te dis, c'est cool de recevoir, puis c'est cool de donner. Mais là, ça dit, c'est encore mieux de donner que de recevoir.
Ah.
Ah. Attention, il y a le micro de Philippe qui est ouvert, si jamais. Des fois, qu'ils disent des bêtises. Là, ça allait. Alors, tout à fait. C'est un autre sujet, mais il faut être capable de recevoir. Pas tout le monde est capable de bien recevoir. Des fois, on est mal à l'aise ou on trouve des excuses. Non, il faut être capable de recevoir. Ça, c'est vrai. Hein. Nous, on a dû apprendre en tant que famille, parce qu'on a été missionnaires pendant bien des années. On l'est encore. Et donc, il y a des gens qui nous donnent de l'argent tous les mois. Ben, c'est pas facile, en fait. On se dit, bah, c'est cool qu'on reçoit de l'argent. Ben, c'est pas... On préférait des fois subvenir à nos propres besoins. On est un petit peu orgueilleux comme ça. Et puis, c'est pas facile de se dire, ben non, je dépends des autres, en fait. Voilà. Mais, pour en revenir à la phrase d'avant, facile, oh là là, il se passe des trucs, de se dire, ben en fait, il y a vraiment plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et en fait, je crois qu'en fait, ça dépend des situations, hein, si on veut être honnête. Il y a des fois où, ben voilà, on donne un peu par habitude, ou on donne par devoir, et on donne pas forcément avec un cœur qui est entier et qui dit, voilà, j'ai vraiment envie de donner à cette personne. Et dans ces cas-là, en fait, c'est là, je crois, qu'il y a quelque chose qui se passe et que, ben voilà, suivant la manière dont on donne et à qui on donne, il peut se passer quelque chose, un plaisir qu'on ressent qui est encore plus grand que quand nous, on reçoit un cadeau. Ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, pas souvent, pas à chaque fois que j'ai donné. Hein, moi, je donne tous les mois un peu de mon argent pour l'église, par exemple. Ben, je ne peux pas dire qu'à chaque fois, je suis là... Je n'éprouve pas tout le temps de la joie liée à ce geste, c'est vrai, parce que c'est un truc que je fais sans vraiment y penser. Mais parfois, on peut donner un cadeau à quelqu'un, et puis on y a réfléchi, on se dit « Ouh, cette personne, je sais qu'elle aime ça. » Et puis, quand elle reçoit ce cadeau, il y a une explosion de joie, ou quelqu'un qui n'a rien. Hein, ces enfants qui vont recevoir vos paquets, pour eux, ça va être incroyable. Alors, malheureusement, vous ne pourrez pas être présent quand ils vont les ouvrir. Si on pouvait être présent, je pense qu'on ressentirait justement ce dont on parle. Hein. On se dirait, waouh, ben là, j'ai ressenti une joie encore plus grande que quand moi je reçois un cadeau. Ça paraît fou, hein? Voilà, donc je voulais un peu nous défier, nous pousser un peu, nous faire penser à ça, alors qu'on arrive dans cette période de Noël aussi. On se réjouit tous de recevoir des choses. Mathieu a bientôt son anniversaire, moi aussi, donc là aussi, on se réjouit de recevoir des cadeaux. Certains, on les a déjà commandés, d'ailleurs. Mais ayez aussi de la générosité. Et donner avec un cœur entier, parce que vous verrez, on peut aussi recevoir, ressentir beaucoup de joie en faisant cela. Et puis, je pensais aussi à ce qu'on va vivre tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est Charles Labelle qui va venir nous parler un petit peu de l'histoire de l'Église. Il va nous présenter toutes sortes de documents un peu historiques. Je me réjouis beaucoup de voir ce qu'il a préparé, ce qu'il va nous présenter. Et puis, je me disais, quelque part, il va aussi nous parler de générosité. Alors, il ne le sait pas. Mais quand je pensais à tout ça, je me suis dit, ben oui, il y a eu énormément de générosité déployée pour qu'on puisse en arriver où nous en sommes aujourd'hui. Hein, quand on regarde l'histoire de l'Église, où ça a commencé, peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de l'Église, alors je vous invite à vous y intéresser, mais on n'a pas toujours été dans ce bâtiment. Ce bâtiment n'existait pas d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a des gens qui ont donné de leur temps, donné de l'argent, donné des compétences, hein, tout ce qu'on a dit avant, pour qu'on puisse, nous aujourd'hui, se réunir dans ce lieu. Et puis, il y a tous ceux qui viendront après nous. Hein, on ne s'arrête pas là, on n'est pas au bout de la course. Qui sait ce que va devenir cette communauté avec les défis voilà, qui nous entourent. Peut-être qu'il y aura encore, certainement, enfin, ce n'est même pas une question, il nous faudra encore donner de nous-mêmes, de notre temps, de notre argent, de nos talents, pour que cette communauté continue à vivre, continue à grandir, et puis que nos enfants, nos petits-enfants, les enfants de nos petits-enfants, puissent continuer à vivre dans cette communauté. Alors voilà, nous allons prendre un temps de chant maintenant. Merci à l'équipe qui s'est préparée pour ça. Et puis, on veut vraiment louer Dieu, le célébrer pour tout ce qu'il a fait dans le passé, pour tout ce qu'il fait aujourd'hui, et puis pour tout ce qu'il va faire dans le futur, parce qu'on sait qu'il ne change pas et qu'il va continuer à être bon, généreux avec nous. Merci.
Ouais, je loue ton nom éternel, je célèbre ta bonté, comme Thierry l'a rappelé, et puis sa générosité, parce qu'il s'est donné entièrement pour nous. Il est mort à la croix pour nous. Je loue ton nom éternel. Alors je vous invite, ceux qui veulent vous lever pour chanter. Ce qui va en général mieux aussi.
Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté.
Ta bonté.
Quelle joie tu vis en moi.
Quelle joie tu vis en moi.
Quelle joie tu viens pour nous sauver.
Nous sauver.
Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel.
Je loue ton nom éternel.
Je loue ton nom éternel.
Oui, célébrons ce Dieu merveilleux qui s'est donné pour nous et dont la générosité continue encore aujourd'hui et pour l'éternité.
Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père. Si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de c'est vérité, en toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté, tu es merveilleux dans tout ce que tu es, tu es merveilleux dans tout ce que tu es, oh tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es.
Oui, que le... cette générosité du Seigneur nous inspire et qu'elle nous transforme et qu'elle change nos cœurs aussi pour que nous devenions généreux comme lui.
Devant toi, genoux, nous te chantons un psaume. Change nos vies et nos envies. Rends nos cœurs humbles, nos bonheurs saints. Je change mon cœur. Gravé de pierre contre ton nouveau cœur de chair, éclaire ce monde de ta lumière, consacre-moi à ton œuvre, Père, éclaire ce monde, gravé de pierre contre ton nouveau cœur de chair, éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi à ton œuvre, Père. Transforme-nous pour ton royaume. Devant toi, genoux, nous te chantons un psaume. Change nos vies et nos envies. Rends nos cœurs humbles, nos bonheurs saints. Et change mon cœur gravé de pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi ton œuvre, Père, et change mon cœur, gravé de pierre, contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière, consacre-moi ton œuvre,
Ah, voilà, voilà. Donc voilà. Alors pour les deux personnes qui ne connaissent pas encore Charles Abel, voici Charles Abel. Merci Charles Abel pour tout ce que tu as préparé. C'est juste, merci Philippe. J'ai mis ça sur mes notes et vu que je ne les lis pas. Les enfants, vous êtes libérés. Passez un bon temps dans vos groupes. Donc vous pouvez descendre, suivre Rebecca, les moniteurs qui sont là et qui vont vous accompagner dans la confection de ces paquets. À tout à l'heure. Donc voilà, merci beaucoup Charles Abel pour tout ce que tu as préparé, tout ce que tu portes sur ton cœur aussi. Je me réjouis et je crois qu'on se réjouit d'entendre ce que tu as préparé. Merci.
Bonjour.
Bonjour Charles Abel.
En fait, je ne sais pas vraiment pourquoi ces questions que vous voyez à l'écran, m'ont habité depuis un certain temps. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé dans ma bibliothèque des revues, des albums photos, des brochures qui, en fait, retracent l'histoire de notre Église. Alors, je me suis dit, oui, ces documents, peut-être qu'ils intéresseraient des personnes qui n'ont pas connu, pas vécu le début de l'EM ici à Mérin. Alors, je remercie Anne-Marie, responsable de la bibliothèque, même si aujourd'hui la bibliothèque n'est pas ouverte. Je remercie Anne-Marie d'avoir été d'accord de prévoir un endroit de la bibliothèque qui pourra accueillir les documents que j'ai retrouvés et qui nous racontent cette histoire. Comme ça, ces documents sont à disposition de tous les membres de l'Église. Alors, pour commencer, je vais peut-être juste passer en revue quelques-uns de ces documents pour votre information, simplement. Alors, j'ai trois documents qui sont plus particulièrement des documents historiques. Là, vous avez un classeur rouge qui est ouais, il se tient un peu de travers parce qu'il est tombé de ma table l'autre jour. Voilà. Mais bon, le contenu est sauf. Alors, ce document préparé par Ernest Corté, un ami de Colonie, est sa recherche de l'histoire du réveil. Bon, l'histoire du réveil, c'est vieux, c'est vrai. L'histoire du réveil, c'est le 19e siècle. Et cet ami a tenu à faire des recherches là-dessus. Et puis, il a constitué des classeurs comme ça. Et il en a remis un exemplaire à chacune des églises de la Fraie de Genève, dont celui-ci pour Mérin. Alors, bon, il était chez moi. Je ne savais pas très bien qu'en faire d'autre jusqu'ici. Mais maintenant, c'est l'occasion de le mettre dans la bibliothèque ici. Ce document est intéressant, bien qu'il soit 500 pages de photocopie, hein, c'est pas pour tout le monde, mais il est intéressant parce que le réveil, eh bien, le réveil, c'est nos sources profondes du monde évangélique. Donc, nous sommes des bénéficiaire de tout ce qui s'est fait au moment du réveil à Genève, 1820-1830. Alors, vous avez aussi sur l'écran une brochure intitulée « L'Assemblée de Colovray ». Alors, l'Assemblée de Colovray, c'est important parce que, pour nous, parce que c'est de cette Assemblée que sont en sommes venus les fondateurs de notre cher EEM. Ce sont les fondateurs. Les chrétiens de Colovray ont dû quitter leur lieu de rassemblement en 1963 parce qu'il y avait des travaux d'agrandissement de l'aéroport qui nécessitaient de raser le bâtiment où ils se rassemblaient. Et ils ont fait toute une réflexion. Que va-t-on devenir ? Que va-t-on faire ? Alors, cette réflexion est un peu intéressante, vous la trouverez dans cette brochure. Je vous lis simplement l'intitulé de la brochure, parce qu'elle elle me semble marquante. Alors, cette brochure est intitulée « Comment une assemblée de campagne confrontée à des problèmes de locaux reçoit après plus de 62 ans d'existence, en effet, ça a été créé en 1900, après 62 ans d'existence, la vision de l'évangélisation d'une cité voisine. Vision d'évangélisation d'une cité voisine. Voilà. Alors, c'est toute la réflexion de cette communauté qui a abouti à un groupe de une bonne partie des membres de l'Assemblée du Colovray, de venir à Mérin. Et enfin, vous voyez encore aussi la brochure que nous avons éditée pour les 40 ans de l'EM. Alors, les 40 ans de l'EM, c'était en 2003, puisque c'est en 63, justement, que l'EM a été fondée. Et dans cette brochure, vous trouverez les problèmes qu'il y a eu au début. C'était pas facile. C'était pas facile de se lancer dans cette aventure de créer à Mérin une communauté évangélique, alors qu'il y avait une église protestante, il y avait une église catholique. Alors, voilà, dans cette brochure, on vous dira pourquoi Mérin, pourquoi avons-nous utilisé pendant des années la chapelle voisine, et oui, comment se sont passées les relations avec les autres communautés religieuses, protestantes et catholiques. Alors, il y a tout un débat là autour. Je peux vous signaler aussi trois documents là que j'ai sélectionnés dans cette recherche pour dire des événements marquants. Alors, parmi les événements marquants de notre Église, bien sûr, il y a la construction de ce bâtiment où nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est un événement marquant. C'est un événement qui s'est passé en 2005. Il a été inauguré en 2005. Mais, bien sûr, que l'Église existait depuis 63. Depuis les années 90, on s'est toujours posé la question, oui, les locaux, on a passé de locaux, c'est difficile, etc. Donc c'est dans les années 90 que a commencé la réflexion sur l'avenir de la communauté du point de vue des locaux. Et c'est en 2005 qu'on a pu, finalement, 15 ans après, inaugurer vraiment des nouveaux locaux. Voilà, une autre particularité de la vie de l'Église, ce sont les spectacles de rue. C'est pas partout que dans les églises qui créent des spectacles de rue. Eh bien, là, les Noël en plein vent, ça a été quelque chose de génial dans le fonctionnement de l'Église. En 2010, la première fois, en 2011, ça a été répété parce qu'ils nous ont demandé de refaire ce qui avait été fait en 2010, mais le faire au CEPOM. Et en 2017, encore une fois, il y a eu une manifestation de rue pour Noël. Il y a eu d'autres choses qui se sont faites de manière plus visible. Et il y a eu des expositions, il y a eu le coffee bar, il y a eu pour faire toute une liste d'événements importants. Mais enfin, bon, je ne veux pas m'allonger là-dessus. Et comme événement, ben, ce sont les 60 ans de l'Église. L'année dernière, on fêtait les 60 ans de notre Église. Alors là aussi, nous avons sur la table une brochure qui est intitulée « Les festivités en images » en 2023. Un dernier groupe de document qui a retenu mon attention, c'est le problème de la communication interne dans l'Église. Ça a été toujours, pour le Conseil, un problème de trouver les moyens de communication pour informer tout le monde. Au début, ben, on distribuait un polycopié à la sortie du culte. C'est tout ce qu'on avait comme moyen de communication. Et alors, un jour, c'est Bernard Bailly qui est arrivé avec un projet qui proposait de créer un journal d'église. Alors, il s'est mis au travail, il l'a fait lui-même, et c'est ce qu'on trouve dans les quatre boîtiers qui sont ici sur la table, c'est le contact. Alors, je n'ai pas fait signe à Philippe de passer les vues, les bonnes vues au bon moment. Je ne sais pas si tu as pu suivre. Alors, je suis là la quatrième photo. Le journal Contact. Voilà, le journal Contact a été créé en 1976 par Bernard. Et oui, c'est un journal qui a duré 30 ans, 31 ans exactement. Il y a eu 175 numéros du Contact, c'était tous les deux ou trois mois. Alors, la collection complète se trouve dans les quatre boîtiers en bois ici. Si, pour ceux qui voudraient rechercher des événements, tout est là. Et puis, voilà, en 2007, c'est trouvé que la personne trouvée pour poursuivre ce travail de rédaction du journal Contact. Voilà, ça, quel dommage. Et on a eu, mais c'était sans compter, et on arrive à l'image suivante, sans compter sur le fait que notre ami Blaisou était un inconsolable de la disparition du Contact. Alors il s'est dit, non, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Alors il a cogité et il a lancé une feuille qu'il a appelée, c'est lui qui l'a appelée comme ça, « Feuille d'information à parution incertaine ». Alors, je connais bien là l'imagination aussi engagée que fertile de Blaisou. Alors, Blaisou a lancé cette feuille, puis il a quand même fait lui donner un titre un peu plus sérieux, entre guillemets. Il l'a appelé « L'électron ». Alors, grâce au fait qu'il avait confié la gestion de ses affaires à son petit-fils, Nicolas, j'ai pu avoir la collection complète des électrons. C'est le classeur jaune. Alors, il y a la collection complète du papier et aussi la collection complète numérisée. On change de méthode. Hein. Ouais. Alors, voilà. Alors, il y a eu 46 numéros de l'électron qui ont été produits par Blaisou, et les 6 derniers par Sylvain Wenger. Donc, en tout, il y a 52 numéros de l'électron. Voilà, après ce travail-là, eh bien, personne non plus, c'était en 2015, personne pour reprendre ce genre de travail. Et ce qui a été fait depuis lors, c'est l'Actumérin. Malheureusement, je n'ai pas de détails comment les choses se sont passées à ce moment-là pour lancer l'Actumérin. Mais l'Actumérin, qui nous renseigne encore aujourd'hui, c'est à partir de ce moment-là. Alors, j'ai rassemblé tout ça dans mes affaires, les collectionner et tout. Il faut collectionner, il faut stocker. À quoi bon garder tous ces vieux papiers? C'est la question qui m'a habité aussi un certain temps. À quoi bon garder tout ça? Mais après réflexion, j'ai répondu moi-même à ma question. J'ai dit oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais maintenant, il faudrait savoir à quoi on en est par rapport aux trois questions posées au début. Alors j'ai dit c'est bon parce que ces documents nous racontent l'histoire de l'Église, de notre Église. Et là, nous héritons d'une communauté, nous tous, en tant qu'héritiers de la communauté, c'est bon d'avoir cet arrière-plan, de le conserver. Et puis quelqu'un a dit l'histoire. L'histoire, c'est important de la connaître. Et c'est dangereux de l'ignorer. Important de la connaître et dangereux de l'ignorer. Alors connaître l'histoire, en tant qu'héritier, c'est aussi connaître la valeur de l'héritage. Et on peut être reconnaissant envers ceux qui ont créé cet héritage que nous avons aujourd'hui. Reconnaissant envers ceux qui ont créé le passé. Y a peut-être un piège là. Oui, quand on parle du passé, on dira volontiers, on va toujours refaire la même chose. Mais justement pas. Je crois que c'est justement le contraire. Connaître le passé, c'est aussi se dire, bien voilà les expériences du passé, comment va-t-on tenir compte de ces expériences pour aujourd'hui et pour l'avenir, pour travailler avec sagesse aujourd'hui, pour préparer l'avenir avec discernement. Alors, je crois que c'est là pour cela que nous sommes appelés, et pour cela que l'histoire est intéressante. Et puis, on dit aussi que ignorer l'histoire, le risque en ignorant l'histoire, c'est que il est facile de tromper l'ignorant. Donc, je ne veux pas m'étendre sur cette remarque, mais on peut y réfléchir, il est facile de tromper l'ignorant. Donc, l'histoire nous permet quand même d'être plus attentif à ce que doit être l'aujourd'hui et ce qu'il faut préparer pour demain. Alors, je vais conclure, et en guise de conclusion, j'aimerais dire que, en rassemblant tout ça, j'ai été un moment où j'ai été un peu émerveillé. J'ai pensé à la somme de prières qui sont montées vers Dieu dans les 60 ans de la vie de l'Église. La somme de prières qui sont montées vers Dieu pour toutes sortes de besoins et de raisons. Je pense qu'il y a eu une quantité d'accompagnement et d'accueil qui ont pu être pratiqués par la communauté. D'innombrables bénédictions que nous avons reçues. De nombreux enseignements aussi. Alors, on peut revenir au numéro 6 des images. Et je pense que tous ces documents sont les témoins de tout ce que je viens d'énumérer. Alors, c'est pour ça que je crois que c'est important. Et ce que je vous avouerai aussi que, en reprenant tout ça, tout ce travail, j'ai eu quelquefois des poussées d'émotion en repensant à tout ce que ma famille et moi-même, tout ce que nous avons vécu pendant grâce à notre attachement à cette communauté, tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous avons reçu dans cette communauté. Et bien sûr qu'avec tout ça, ce travail ne pouvait pas me laisser indifférent. Alors mon vœu aujourd'hui, c'est que nous puissions tous trouver dans cet héritage de bonnes lectures et faire peut-être de quelques intéressantes découvertes. Et que tout cela, que cette relecture de l'histoire de notre communauté nous stimule au service de Dieu et constitue finalement un peu la réponse aux trois questions que nous avons posées au début de cette présentation. Église évangélique, d'où viens-tu? Qui es-tu? Où vas-tu? Ça répondra un peu à ces questions. Mais surtout, dernière vue, mais surtout, n'oublions jamais l'essentiel, à Dieu soit la gloire. Oui, à Dieu soit la gloire.
Amen.
Amen.
Merci beaucoup, Charles Abel. Alors, c'était vraiment une bonne transition. À toi soit la gloire. On va chanter ce chant tout à l'heure. Mais avant ça, je vous propose de prendre un petit temps de reconnaissance. Pour ceux qui se sentent la liberté de le faire, qu'on puisse prier, remercier Dieu pour tout ce qu'il y a avant nous, tout ce passé, toutes ces personnes, toutes ces choses qui ont été construites sous nos pieds pour que nous puissions nous tenir debout aujourd'hui.
Merci Dieu pour Charles Abel et aussi pour Florence. C'est elle qui m'a accueillie pour la première fois dans ce lieu et elle est toujours là et nous la bénissons. Et merci Charles Abel pour tout ce travail que tu as donné. C'est vrai, quelle belle question. D'où je viens, où je vais, mais où vais-tu? Et Seigneur, que je ne perde pas la route, que je sache toujours où je vais. Et que je puisse aussi te transmettre, que l'Église puisse transmettre à ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le chemin, pour savoir où ils vont. Nous demandons ces grâces, merci pour toutes les bénédictions, c'est vrai, de laquelle je suis au bénéfice dans cette assemblée. Sois loué, sois béni, sois exalté au milieu de nous. Amen.
Amen.
Oh Dieu, tu n'es pas seul dans ton palais de silence. Mais tu as toujours désiré cette communion avec l'homme que tu as créé. Et tu as voulu, par Jésus-Christ, ton Église, ton épouse. Et Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu nous as aidés dans ces 60 années à vivre, à être, à reconnaître et surtout à te louer, t'adorer, te servir. Merci parce que tu as eu. Tu as cette envie de travailler avec nous, d'aller plus loin, d'être dans ton champ, des ouvriers. Nous soyons ouverts à toutes choses. Amen.
Amen.
Cher Seigneur, merci pour cette histoire finalement assez récente que Charles Abel nous a rappelée ce matin. Nous y voyons ta fidélité, ta bonté, ta générosité. Nous y voyons aussi la bonté, la générosité, la fidélité de celles et ceux qui nous ont précédés et dont beaucoup goûtent au repos céleste. Te bénis pour ces hommes et ces femmes, te bénis pour celles et ceux qui aujourd'hui ont pris le relais et continuent leur engagement dans l'œuvre du Seigneur. Aide-nous à marcher de progrès en progrès et à tenir compte de cet héritage dans ce que nous entrevoyons aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Oh, papa.
Oui, Seigneur, nous voulons te bénir pour ta fidélité. Merci aussi pour toutes les bénédictions que tu as accordées à chacune de nos familles. Et Seigneur, merci aussi d'avoir les conditions pour faire des projets, pour ne pas nous arrêter là, mais que tu nous permets encore de faire des projets. Nous voulons te bénir pour cela. Amen.
Amen.
Merci Seigneur pour ta parole qui est aussi qui est la réponse à d'où je viens, où je suis et où je vais. Cette parole qui a été écrite par tant de personnes qui ont eu à cœur, qui se sont sûrement posé ces questions, à quoi bon? Merci parce que c'est dans ta parole que chacun d'entre nous pouvons puiser, voir ta gloire, ta fidélité. Permets-nous d'être aussi à notre tour des personnes qui pourront partager cette parole pour qu'elle aille jusqu'aux extrémités de la terre, comme tu le sens.
Amen. Amen. Amen.
Amen. Voilà, j'invite les musiciens à revenir pour ce chant. Ce chant, à toi la gloire, hein. Pour certains, c'est fait partie des hits dans le répertoire des chants chrétiens. Pour d'autres, peut-être, c'est un peu, voilà, encore ce chant. Je vous propose que ce matin, nous puissions, quelle que soit la génération à laquelle nous appartenons, chanter ce chant de tout notre cœur comme un chant qui nous unit. Les personnes plus âgées, les personnes plus jeunes, tous ensemble, nous chantons à Dieu, à toi soit toute la gloire, comme ça a été dit tout à l'heure.
Je dois brancher mon micro.
Tout le monde est réveillé. Super. Merci beaucoup, Charles Abel, pour ce que tu as partagé, ce que tu as soigneusement préparé en amont. C'était l'occasion de beaux échanges entre nous pour préparer aussi ce culte. Et nous te sommes vraiment reconnaissants pour ce que tu as préparé. Je vous encourage à venir compulser les documents qui sont à disposition. J'ai réalisé tardivement, ce matin seulement, qu'il y avait une jolie coïncidence entre ce que tu as partagé, la thématique de ce culte, et puis cette date dans le calendrier. Je ne sais pas si vous savez, nous sommes nous issus de la réforme hein, et du réveil de Genève, et aujourd'hui c'est le dimanche de la réformation. Nos grands frères et sœurs protestants se réunissent tout à l'heure, et vous pouvez toujours les rejoindre vers 11h30 au parc des Bastions, devant le mur des réformateurs, pour, comme chaque année, marquer le coup autour de ce dimanche de la réformation. Et nous nous rappelons que cette grande réforme de Genève, elle a abouti aussi à des grandes vérités qui ont été résumées en quelques mots. On en a déjà parlé il y a quelques jours, sola gratia, la grâce seule, sola scriptura, l'écriture seule, raison pour laquelle nous donnons un peu de place ce matin dans la lecture et la méditation de l'écriture, et puis soli deo gloria. À Dieu seul soit la gloire. Mot de conclusion, un chant fort, et puis une vérité qui traverse nos vies. À Dieu seul soit la gloire. Puis on peut peut-être se rappeler qu'un petit peu plus tard, dans ce courant de la réforme, est apparue une quatrième petite phrase, latine toujours, « Semper reformada ». Vous savez ce que ça veut dire ? Toujours réformé. Hein, l'idée, c'est que la grande réforme, le grand réveil, les grands moments d'une église, les grands moments d'une vie, on ne s'y arrête pas forcément. Ce n'est pas un aboutissement en soi, mais on reste toujours réformé, toujours en réformation, toujours en route. C'est un peu inconfortable, hein, on le voit bien, même dans la vie de notre église. Le moindre petit changement crée quelques craintes, mais ça, c'est la vie. Toujours réformé. Le texte biblique que j'ai choisi pour ce dimanche, en hors-série du Sermon sur la montagne, bien que, se trouve dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome. Le Deutéronome, c'est un grand livre qui vient clore le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est cette collection des 5 premiers livres de la Bible, collection de livres dans laquelle on trouve le récit des origines, celui de l'Exode avec la sortie des Hébreux d'Égypte et les différents textes de la loi qui donnent un cadre de vie pour le peuple de Dieu. Deutéronome, ça signifie deuxième loi. Ça ne signifie pas que Dieu donnerait une nouvelle loi qui viendrait remplacer l'ancienne. Il s'agit plutôt d'un rappel à la loi, ou d'une relecture de la loi. On rappelle les fondamentaux juste avant l'entrée dans le pays promis, et c'est ainsi que ce livre du Deutéronome se présente. Rien d'étonnant donc que dans le passage que nous allons lire et méditer quelques instants ce matin, Moïse invite le peuple à se souvenir du passé et à l'interroger. Se souvenir du passé et l'interroger. Poser des questions à l'histoire. Et voici ce qu'écrit l'auteur du Deutéronome. Interrogez donc le passé, ce qui est arrivé longtemps avant vous, depuis que Dieu a créé l'humanité sur la terre. Méditez sur tout ce qui s'est passé d'un bout à l'autre du monde. Un fait aussi extraordinaire s'est-il déjà produit? A-t-on déjà entendu raconter une chose pareille?
Existe-t-il un autre peuple qui ait entendu un Dieu lui parler du milieu du feu et qui ait survécu comme cela vous est arrivé? Ou bien un autre Dieu que le vôtre a-t-il essayé un jour d'arracher son peuple à la domination d'un peuple ennemi en recourant à des signes impressionnants et des prodiges, des exploits irrésistibles et terrifiants? Non. Mais le Seigneur votre Dieu vous a arraché de cette manière de l'Égypte, comme vous l'avez vu de vos propres yeux. Vous avez vu pour comprendre que le Seigneur est ce Dieu-là, qu'il n'y en a pas d'autre égal à lui. Des cieux, il vous a fait entendre sa voix pour vous enseigner à être obéissant. Sur terre, il vous a fait voir un grand feu et vous l'avez entendu parler du milieu de ce feu. Parce qu'il aimait vos ancêtres et qu'il vous a choisi, vous leurs descendants, il vous a fait sortir d'Égypte lui-même grâce à sa force immense. Il va maintenant mettre en fuite à votre approche des peuples plus nombreux et plus puissants que vous, et vous conduire dans leur pays pour vous le donner en possession dès aujourd'hui. Reconnaissez donc aujourd'hui et réfléchissez-y sans cesse que le Seigneur est ce Dieu-là, aussi bien dans les cieux que sur la terre, et il n'y en a point comme lui. Mets en pratique ses lois et ses commandements que je te transmets aujourd'hui. Toi et tes descendants par la suite, tu y trouveras le bonheur et tu vivras ainsi longtemps dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne pour toujours. C'est le texte du Deutéronome au chapitre 4, les versets 32 à 40. Moïse vient là inviter le peuple à se souvenir, ou plus précisément, pour utiliser les mots hébreux, à interroger le passé, à questionner l'histoire. Il les invite à un retour en arrière en deux temps. D'abord, en remontant le plus loin possible, dit Moïse, en considérant ce qui est arrivé longtemps avant vous, depuis que Dieu a créé l'humanité sur la terre. Première étape, il faut remonter aussi loin que ça, depuis que Dieu a créé l'humanité sur la terre. Il s'agit en réalité de contempler l'œuvre du Créateur, de s'émerveiller devant la création et la façon dont cette création témoigne de la grandeur du Dieu qui l'a créée. Ensuite, il invite à interroger un passé plus proche, qui remonte à quelques années à peine pour le peuple hébreu, avec la sortie d'Égypte. Moïse fait alors référence, dès le verset 33, à la façon dont Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte. Les questions qu'il pose sont rhétoriques. Les questions sont fortes, mais les réponses sont sous-entendues. Il dit un fait aussi extraordinaire. S'est-il déjà produit? La réponse est non, évidemment. Existe-t-il un autre peuple qui ait entendu un Dieu lui parler du milieu du feu et qui ait survécu comme cela vous est arrivé? Non, la réponse est non, évidemment, ça n'existe pas. Vous arrive-t-il d'interroger le passé? Je vous suggère que l'exercice est utile. Vous arrive-t-il de considérer la façon dont Dieu a agi par le passé? Que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans votre vie. Le texte de ce matin, à la suite du témoignage de Charles Abel, nous invite à cet exercice. Interroger le passé. On peut alors, comme dans notre texte, remonter aux origines, contempler l'œuvre extraordinaire du Créateur. Et si la délivrance de l'esclavage en Égypte est pour nous une œuvre trop éloignée de Dieu, eh bien il y en a une autre que nous sommes invités à contempler sans cesse. Une œuvre datant de 2000 ans, celle du Christ, elle est bien plus grande encore que la sortie d'Égypte. C'est la rédemption. Elle est aussi extraordinaire que l'œuvre de la création elle-même, parce que c'est une recréation. Alors interrogeons le passé en nous souvenant de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu devenu homme pour partager notre condition humaine avec toutes nos épreuves, nos faiblesses, la souffrance jusqu'à la mort. Y a-t-il une preuve d'amour plus grande que celle-ci? La réponse est non, évidemment. Interrogeons le passé en nous souvenant de la mort injuste, scandaleuse de Jésus, qu'il a pourtant accepté par amour pour nous. Sa mort est le sacrifice ultime qui nous assure le pardon. Y a-t-il une source de paix et d'assurance plus grande? La réponse est non, évidemment. Interrogeons le passé pour contempler le matin de Pâques, le tombeau vide, les premiers témoins de la résurrection. Il a vaincu la mort! Y a-t-il un triomphe plus éclatant dans toute l'histoire de l'humanité? La réponse est non, évidemment. Interrogeons le passé pour nous souvenir des promesses de Jésus accomplies après son ascension, son retour près du Père, lorsque le Saint-Esprit a été envoyé lors de la Pentecôte. Y a-t-il promesse plus extraordinaire que celle du Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en nous, Dieu lui-même qui fait de nous sa maison, le lieu de sa résidence? La réponse est non, évidemment. Et puis on peut aussi interroger le passé plus récent, plus personnel, le passé de notre chemin avec le Seigneur. Vous savez, dans les plus beaux moments de mon service pastoral au milieu de vous, avec d'autres chrétiens et chrétiennes, c'est quand on prend un petit moment d'arrêt sur un canapé en bas ou à la maison ou en balade. Et puis juste qu'on parle très simplement de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Très simplement, pas de la haute théologie, pas des paillettes, pas des « je veux t'impressionner » ou « je te rappelle ce que j'ai fait ». Juste ce que le Seigneur a été et est pour nous. On peut se souvenir là des différentes façons dont Dieu a cheminé avec nous, les réponses qu'il a données à nos prières, ses interventions en notre faveur, les expériences qu'il nous a permis de vivre où parfois on a eu l'impression même qu'il était absent, les rencontres tissées, les découvertes saisissantes. Toutes ces fois où nous avons eu l'occasion de voir Dieu agir dans notre vie ou autour de nous, de manière évidente ou discrète, interrogeons notre passé pour y discerner la présence fidèle de Dieu. Et on peut aussi interroger l'histoire de notre Église, comme on l'a fait un peu ce matin. On peut faire mémoire de la bonté, de la fidélité, de la générosité de Dieu. On peut mettre en valeur tout ce que Dieu a été et être assuré que ce Dieu ne changera pas d'un iota. Il ne bougera pas. Ce qu'il a été, il est et il sera, et nous pouvons nous y adosser. Des choses évoluent, des formes changent. C'est le principe même de la vie. On ne fait plus aujourd'hui comme il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Mais Dieu continue d'intervenir au cœur de son Église et de la bâtir. Regardez le nombre d'enfants qui nous ont quittés ce matin. Dieu continue de bâtir son Église. Soyons-en assurés pour être bâtisseurs, bâtisseuses à notre tour, à sa suite, dans ses pas. À quoi bon ? Demandait Charles Abel. À quoi bon réunir ces documents? À quoi bon, en général, interroger notre passé? Pourquoi le faire? Ça sert à quoi? En tout cas pas pour s'y réfugier. Il ne s'agit pas d'être nostalgique d'un passé révolu, et c'est peut-être une des choses qui m'a le plus touché dans les échanges avec Charles Abel, c'est qu'il n'y a jamais eu de la nostalgie, il n'y a jamais eu « c'était mieux avant », il y a toujours eu l'idée « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et si Moïse interroge le passé, c'est pour en arriver à aujourd'hui. Il dit « reconnaissez donc aujourd'hui et réfléchissez-y sans cesse que le Seigneur est ce Dieu-là, aussi bien dans les cieux que sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Mets en pratique ses lois et ses commandements que je te transmets aujourd'hui. Toi et tes descendants par la suite, tu y trouveras le bonheur et tu vivras longtemps dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne pour toujours. » Deux impératifs. C'est la conclusion de Moïse. Reconnaître que le Seigneur est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Mettre en pratique ses lois et ses commandements. Le premier impératif, c'est une affirmation théologique extrêmement forte. C'est l'affirmation théologique du monothéisme. Il y a un seul Dieu, et ce Dieu, c'est le Seigneur. En interrogeant le passé, on va affirmer que c'est lui qui a créé l'univers, que c'est lui qui a délivré son peuple d'Égypte, que c'est lui qui a envoyé son Fils pour notre salut, que c'est lui qui habite en nous par son Esprit, que c'est lui qui manifeste de différentes façons sa présence dans notre vie et dans l'Église. Il y a donc ici une affirmation théologique et plus qu'une affirmation théologique. Il ne s'agit pas seulement de croire qu'il y a un seul Dieu. Ça serait trop simple. Il s'agit de le reconnaître, d'y réfléchir. Littéralement, pour prendre l'hébreu, de le faire revenir vers nos cœurs. Il y a un effort d'assimilation à faire, un travail d'appropriation, de réflexion. Le Seigneur est Dieu et il n'y en a pas d'autre. Le Seigneur est le seul Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Ok. Mais l'est-il aussi dans notre cœur? Ou est-ce qu'il doit partager la place avec d'autres dieux en qui nous mettons notre confiance ou notre espérance? Les dieux de l'argent, des richesses, du confort, de la santé, les dieux de la réussite, de la popularité ou de la renommée, les dieux du pouvoir, de l'influence ou des réseaux. Le Seigneur est le seul Dieu et il n'y en a pas d'autre. Ou le Christ est roi de tout ou il n'est pas roi du tout. Et puis le deuxième aujourd'hui de notre texte nous invite à écouter et mettre en pratique la parole du Seigneur comme une concrétisation de sa présence en souverain dans nos cœurs. Mets en pratique ses lois et ses commandements. Mets-les en pratique. Nous l'avons dit plusieurs fois au fil de notre méditation du sermon sur la montagne. Il ne s'agit pas d'obéir aveuglément comme un soldat qui obéit aux ordres sans poser de questions. Il s'agit de les suivre dans la confiance, en sachant que le Seigneur nous les donne pour notre bien, pour entrer dans ses bénédictions. Moïse l'affirme, « Toi et tes descendants par la suite, tu y trouveras le bonheur. » Tu y trouveras le bonheur. Les lois et les commandements du Seigneur nous sont donnés pour notre bonheur. La loi n'a pas été donnée pour le salut. La loi, elle a été donnée après la libération. Elle n'a jamais été donnée pour nous libérer, la loi. Elle a été donnée pour nous garder libres. Elle suit la libération. La loi, c'est une façon de Dieu de nous dire « Ok, je t'ai libéré, maintenant reste libre. Ne va surtout pas te remettre sous un autre joug. » pourquoi Dieu nous aurait-il créés et sauvés, si ce n'est pas pour notre bonheur? Pourquoi aurait-il délivré son peuple de l'esclavage pour le mettre sous un autre joug de contraintes arbitraires? Pourquoi le Fils de Dieu serait-il devenu homme et serait-il mort pour nous, si c'est pour faire de nous des esclaves? Dieu aurait-il fait tout cela pour nous contraindre, pour nous opprimer ou pour nous laisser tomber? Jamais. C'est pour cela qu'en interrogeant le passé, en nous souvenant de ce que Dieu a fait pour nous, dès son œuvre de création, nous savons que nous pouvons lui faire confiance pour aujourd'hui et pour demain. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je conclus. Interroger le passé, poser des questions à l'histoire, se demander à quoi bon, c'est utile. Se remémorer ce que le Seigneur a fait pour nous, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, en intégrant notre histoire, c'est utile. Nous avons là une source d'émerveillement inépuisable. Et je vous laisse avec ces deux questions que j'ai passées également au groupe de jeunes qui se retrouvent tout à l'heure après le culte. Depuis quelques semaines, les jeunes poursuivent le culte en demandant aux prédicateurs de leur fournir des questions pour leur groupe de l'après-midi. Et voici les deux questions que je vous laisse et que je leur ai laissées. Vous arrive-t-il d'interroger le passé? Vous arrive-t-il de considérer la façon dont Dieu a agi par le passé, dans le monde, dans l'Église ou dans votre vie? Est-ce que vous arrivez à vous poser? Pas être tout le temps dans l'activité, dans la proposition, juste se poser et se poser ces questions. Le Seigneur est le seul Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Mais l'est-il aussi dans notre cœur? Ou doit-il partager la place avec d'autres dieux en qui nous mettons notre confiance ou notre espérance? En répondant à ces questions, nous allons interroger le passé pour mieux accueillir aujourd'hui le Seigneur comme notre Dieu, le seul et l'unique, digne d'adoration. Amen.
Amen. Merci Philippe. Nous allons maintenant prendre la Sainte Cène, un autre symbole fort que Jésus nous a laissé, qui nous unit de génération en génération, avec ceux qui étaient là avant nous, et puis tous ceux qui, comme nous dans le monde, se réunissent autour de ce beau nom. J'invite déjà Charles Abel, Philippe, à me rejoindre. Et puis, si je peux encore avoir 2-3 volontaires aussi pour la distribution de la scène, c'est volontiers, vous pouvez déjà vous approcher. Quelque chose que je n'avais pas prévu de dire, mais ça fait quelques semaines que j'y pense quand je pense à la Sainte Cène. Et j'espère ne pas mettre les pieds dans le plat, je m'en excuse par avance si c'est le cas. Il m'arrive de voir des gens qui ne prennent pas la Sainte Cène. Et bien sûr, tout le monde est libre de ne pas prendre la Sainte Cène. Entendez-moi bien. Mais je me pose parfois la question, hein, dans ma vie de prière, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à ne pas prendre la Sainte Cène? Et puis alors là, bien sûr, on peut imaginer toutes sortes de choses. Je me dis peut-être que voilà, il y a eu des choses dans la semaine qui ont fait que c'est difficile, peut-être qu'ils sentent qu'ils ne sont pas encore en ordre devant Dieu, ou je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est en fait, mais ça me questionne. Parce qu'en fait, moi, je prends la Sainte Cène, alors... Il y a des semaines où voilà, ça va mieux que d'autres, mais en fait, de manière générale, je ne suis pas en ordre devant Dieu. En fait, personne n'est en ordre devant Dieu. C'est aussi ça la Sainte Cène. C'est ça la Sainte Cène. On l'a dit avant, la grâce seule. Si on pense qu'il faut être en ordre devant Dieu pour prendre la Sainte Cène, c'est là qu'il y a peut-être un problème. En fait, c'est ceux qui ont besoin de Dieu qui prennent la Sainte Cène. Donc si ça vous arrive d'hésiter à prendre la Sainte Cène parce que vous vous dites « Ah, cette semaine, je me sens un peu sale » ou je ne sais pas quelles sont les raisons. Et encore une fois, sentez-vous libre, ça vous concerne, c'est entre vous et Dieu. J'aimerais juste pas que quelqu'un passe à côté de cette chose merveilleuse qui est la Sainte Cène pour des mauvaises raisons. Si votre raison c'est ben, « j'ai besoin que Dieu me pardonne parce que cette semaine, ce n'était pas terrible ben, », prenez la Sainte Cène. Chaque jour, chaque dimanche, mais chaque jour, chaque instant, Dieu nous invite. Dieu nous invite à venir devant lui et à dire ben, « j'ai encore échoué ». Et je connais bien ça. Hein, ceux qui connaissent mon témoignage, je me suis battu avec la pornographie pendant plus de 20 ans. Combien de fois j'ai dû me présenter devant Dieu en ayant l'impression que j'étais sale ? Ben, tous les jours, pendant des années. Donc encore une fois, mon intention n'est pas de m'immiscer dans votre vie privée. Entendez bien mon cœur. Mais cette Sainte Cène, ce geste est là pour nous pécheurs, pour nous tous. C'est la grâce, c'est pas une grâce en fait si on s'approche de Dieu en pensant qu'on est juste. C'est une grâce parce qu'on n'est pas juste et qu'il nous l'offre néanmoins. Donc voilà. Charles Labelle, est-ce que tu serais d'accord de prier pour ces éléments, donc le pain, le vin, qui représentent le corps et le sang de Jésus-Christ versés pour chacun d'entre nous à la croix.
Seigneur, nous t'adorons dans un sentiment de grande reconnaissance, parce que par ton sacrifice, tu nous délivres de l'emprise du mal et tu prends sur toi notre péché. Merci, parce que désormais, tu nous accueilles dans ta maison. Tu nous accueilles non plus comme des étrangers, mais comme des enfants de la maison. Que toute notre annonce, que toute notre vie annonce l'amour que tu offres à tous et la joie qui illumine nos vies par la présence de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Voilà, et puis pendant qu'on passe avec les plateaux, les différentes choses, comme d'habitude, il y a aussi la coupe pour ceux qui le désirent, levez la main. Nous allons écouter un chant, « Je t'aime à jamais » de Dan Luyten. Donc je vous invite à méditer les paroles de ce chant, à prier dans votre cœur, alors que nous prenons la Sainte Cène ensemble. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Nous te disons ce matin que nous t'aimons à jamais. Reçois toute notre adoration, toute notre reconnaissance pour ce que tu as fait, ce que tu fais encore aujourd'hui dans nos vies et ta grâce qui se renouvelle chaque jour pour nous. Amen. Voilà, nous avons déjà bien dépassé le temps que nous nous étions impartis nous-mêmes. Nous allons encore prendre une offrande et puis je ferai nos deux annonces pendant ce temps. Donc si les personnes qui ont été d'accord de m'aider avec la Sainte-Seine sont d'accord de revenir un tout petit coup pour l'offrande, c'est volontiers, les sachets sont ici. Merci beaucoup. On vous rappelle que cette offrande est totalement libre. Voilà, sentez-vous libre de donner ou pas si vous êtes en visite parmi nous. Il n'y a vraiment pas d'obligation par rapport à ça. Mais ça nous aide à fonctionner en tant qu'Église. Donc, merci d'avance pour votre générosité. Est-ce que tu me donnerais les 3 flyers qui sont sous ma chaise ? Merci beaucoup. Voilà. Vous l'aurez peut-être remarqué, on essaye de réduire un petit peu les annonces durant le culte. C'est vrai qu'on vit dans un monde de surinformation. On ne sait pas toujours quoi en faire parce qu'on est bombardé. Voilà, dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans les emails, sur le téléphone, au téléjournal, etc. Donc on cherche le juste milieu, c'est pas facile, on tâtonne un petit peu, je vous le cache pas. Donc on ne vous dit pas tout. Donc regardez bien l'actu Mérin, regardez bien ce qui passe avant et après le culte. Regardez aussi à la sortie, il y a toutes sortes de flyers, de papillons, dont ceux-ci, qui sont là. On n'en parle pas forcément parce qu'on ne peut pas parler de tout ce qu'il y a. Alors c'est une bénédiction, il y a énormément d'offres ici autour de nous sur Genève. Mais voilà, on ne peut simplement pas parler de tout. Donc informez-vous, regardez un petit peu ce qu'il y a sur le tableau d'affichage et puis prenez ce qui vous intéresse. Donc voilà, par exemple, vous y trouverez le nouveau spectacle de la compagnie de la Marelle qui a lieu au CEPOM. C'est chaque année, c'est juste. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller, donc je connais moins. Mais voilà, vous avez les papillons, si jamais, avec toutes les informations à la sortie. Et puis aussi, une formation à la HALT, avec l'association L'Eau Vive, spécialement pour les familles. Là aussi, vous trouvez des petits papillons qui ressemblent à ça à la sortie. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi aller vers Anne-Béatrice, qui pourra vous en dire plus. Donc voilà, toutes sortes de formations, des spectacles, des concerts de gospel aussi que j'ai vus à la sortie. Informez-vous, servez-vous et puis parlez-en autour de vous. Je vais prier, je vous invite à vous lever et puis on arrivera au bout de ce culte. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons entendu, vécu durant ce culte. Que toutes ces choses puissent porter du fruit dans notre vie. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'informations et on ne sait pas toujours bien comment trier tout ça. Mais que toi, tu fasses le tri et que les choses qui sont importantes, eh bien, que tu puisses les arroser dans nos vies pour qu'elles portent du fruit demain, après-demain, toute cette semaine. Et que nous puissions être aussi en bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous. Merci pour ta fidélité dans le temps. Merci parce que tu as été avec nous par le passé et que tu seras encore avec nous dans le futur. Amen. Soyez bénis, bonne semaine et à bientôt. Oui. On l'a déjà annoncé plusieurs fois. Ben on l'a dit trois fois déjà. Hein? On l'a dit trois fois la kermesse déjà.
Non, je ne peux pas. Bon, moi, je n'ai pas entendu. La... Bon.
C'est passé dans l'actu Mérin, on l'a dit le dimanche
oui.
matin.
Oui, mais aujourd'hui, on l'a dit.
Non.
Non, alors que c'est important.
Par ben contre... non, c'est pas plus important qu'autre chose.
Mais c'est dimanche. Ben oui, mais c'est mais... comme les règnes en prière qu'on ne dit pas. Moi, si je n'étais pas. Bref, ce que je voulais te dire, le week-end du 23, mais on va l'avoir tous les dimanches.
Je comprends pas ce qu'il y a fait.
Non, mais ben, franchement, tous les dimanches, on voit le week-end du 22 mois de mai.
Pourtant, personne ne sait, avec le problème.
Non, mais on attend. Si tu le dis en avril ou en mars,
ça
limite.
Ça sent bien les images. J'espère que les gens l'ont noté, tu vois.
Moi, je crois que tu dis, on va limiter le week-end.
On limite ce qu'on annonce, c'est trop. Yeah, ben moi je suis quelqu'un qui note tout. Donc je vois passer un truc, ah j'ai envie d'y aller, je note.
Ah ouais, mais si j'ai oublié, je suis moins, bien embêtée.
Il y a
hein.
moins en moins de gens comme ça, tu vois.
Ah, ouais.
Moi j'ai jamais vu d'être quelqu'un sortir son agenda pendant tout, tu vois. En fait, les gens ils voient bien moi.
Ouais, mais voilà. Parce que tout d'un coup, si je n'ai pas noté la réunion, voilà, je la note. Tu vois, ça c'est. Voilà.